Les Beaux Rôles est une idée originale d'Immersion CP. La série Balado propose un parcours d'insertion professionnelle des CP de l'enseignement supérieur à travers l'angle de la compétence numérique.
Faut pas être forcément consensuel. Faut pas hésiter à s'opposer aux idées des profs, des collègues. Faut pas juste le faire pour le faire, mais des fois, de dire ben non, ça marche pas.
Devenir conseiller ou conseillère pédagogique de l'enseignement supérieur, ça vient pas avec un mode d'emploi. C'est un métier qui s'apprend en le pratiquant. Je m'appelle Géraldine Lucier, je suis CP programme au Collège Montmorency à Laval depuis moins d'un an. Vous écoutez la série Les Beaux Rôles. Je pars à la rencontre de collègues d'un peu partout au Québec et je cherche des repères pour m'approprier mon nouveau rôle de CP. Depuis le début de la série Balado, on a abordé des sujets comme le changement et l'accompagnement, et je pense que ça va de pair avec le thème de cet épisode, le leadership. Moi, dans mon travail, j'ai à innover, à influencer et à rallier des profs et des membres de la direction sur certains projets. Développer des qualités de leader devient donc indispensable. Et c'est pas toujours évident d'assumer ce rôle-là, surtout quand on arrive dans le métier, parce qu'il y a un lien de confiance et une crédibilité à bâtir. Mais au fond, comment on s'y prend pour développer son leadership? Et c'est quoi juste être un bon leader dans la conseillance pédagogique? Fidèle à mon habitude, je vais discuter de sujets dans le cadre de porte avec mes deux collègues d'expérience qui ont toujours des anecdotes et des réflexions pertinentes à partager. Je rejoins donc Alexandre Dalpin, CPTIC au Cégep Garneau, et Marjolaine Lewis, CP et technopédagogue à l'ETS.
Le cadre de porte.
Marjolaine, Alexandre, bonjour.
Salut!
Salut, ça va bien?
Ça va très bien.
Très bien, merci. Aujourd'hui, on aborde le leadership.
Mm-hmm. Okay.
Donc, ma première question, ce serait de savoir comment se traduit le leadership dans votre quotidien. Donc, comment vous faites pour allier les profs, la direction? Je ne sais pas si vous avez des exemples. Mm. Marjolaine?
Mais c'est une bonne question. Moi, je pense que c'est au niveau de ma crédibilité. J'ai dû démontrer que je savais de quoi je parlais, que c'était pertinent le support pédagogique qu'on pouvait leur apporter. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça que j'ai été chercher leur appui puis démontrer comment je pouvais être efficace puis utile dans leur accompagnement. Puis la façon de faire qu'on a décidé à l'ETS, c'est d'aller chercher les nouveaux profs, surtout parce qu'on était peu connus. Donc, on est allé installer un système de rencontre de tous les nouveaux profs pour se faire connaître, démontrer c'était quoi la pédagogie, comment on pouvait leur donner des petits trucs pour adapter leurs cours. Puis ça a fait une belle vague. Ça influence un petit peu les profs plus anciens maintenant qui viennent nous questionner. Fait que ça, c'est un bon, une façon de leadership, je pense, ouais.
OK. Ben, c'est sûr que moi, de mon bord, c'est se définir c'est quoi le leadership pédagogique. Moi, je le voyais vraiment comme quelqu'un capable d'influencer les décisions prises dans le milieu. Ouais. Pas forcément dire c'est pas bon, c'est bon, mais d'orienter, faire réfléchir. Fait que c'est sûr que ça vient avec la crédibilité, comme tu disais juste avant, et c'est important, je pense, que tu l'acquiers avec le temps. Ouais. Fait que c'est sûr que moi, de mon bord, j'en ai eu aussi ce genre d'expérience. Peut-être j'ai réussi à emmener certaines personnes, autant des enseignants que des non-enseignants, parce qu'on travaille aussi avec l'administratif dans ma tâche de CPTIC, à chercher des nouvelles méthodes de fonctionnement, s'adapter, les inciter à intégrer un outil numérique quelconque pour que ça réponde bien à leurs besoins. Ouais. Fait que c'est sûr qu'au départ, on commence petit avec quelques profs, puis finalement, tu te rends compte qu'au fil des semaines, tu te retrouves avec plusieurs dizaines de profs qui te suivent, puis qui t'écoutent, puis la crédibilité. Puis, bon, voilà, je pense que c'est tout un package qui vient avec.
Okay. Okay, ben, je vois que ça, la crédibilité revient. Par contre, j'imagine que la crédibilité, ça prend un certain temps aussi avant de développer.
C'est pas spontané. Hélas.
Parce que je me souviens, quand dans les premières semaines que j'ai travaillé, là, j'ai dû accompagner une équipe d'une vingtaine de personnes. Puis j'avoue qu'avec du recul, j'avais peut-être pas, mon leadership n'était peut-être pas optimal, mais tu sais, c'était dans les tout débuts. Fait qu'il faut se donner le temps aussi, je pense, pour. Oui, c'est ça.
Mais puis je sais pas pour vous, mais au niveau universitaire, les professeurs, on peut pas leur dire quoi faire. Ils sont maîtres de leur domaine, de leurs connaissances, on peut les accompagner.
Au collégial, c'est pareil.
Oui, c'est ça. Faut être un leader, mais laisser de la place.
Oui,
exact.
C'est ça.
Okay. Ben, c'est certain, c'est que la crédibilité en tant que tête et l'expérience, ça fait pas tout. Hein. Fait que c'est il faut laisser le temps au temps.
Oui,
c'est ça.
Il faut être patient quand même un peu. Mais justement, c'est quoi pour vous un bon leader en conseillance pédagogique?
Alexandre?
Ben, tu sais, je pense que Marjolaine a abordé l'affaire. Il y a le côté écoute, tu sais, savoir écouter, observer un peu comment les personnes travaillent, comment s'organisent, tu sais, analyser avant de parler, d'agir, tout. Je pense que c'est très important. Mais je pense aussi, il y a un bout, c'est qu'il ne faut pas être forcément consensuel. Il ne faut pas hésiter à s'opposer aux idées des profs, des collègues. Tu sais, il ne faut pas être toujours vraiment dans le même sens que tout le monde. Il ne faut pas juste le faire pour le faire, mais des fois, dire, ben non, ça ne marche pas. Tu sais, il faut vraiment aimer être en première ligne. Se confronter un peu aux idées, comme j'ai des collègues, histoire d'améliorer un peu le projet ou l'orientation.
Ouais.
Fait que, tu disais, il y a l'écoute attentive qui est important pour moi, ta disponibilité en tant que conseiller pédagogique là, pour tout ce qui est leadership, comment tu t'organises, comment tu fais ton suivi serré, avant, pendant, après, c'est super important. Puis enfin, dernier point pour moi majeur, c'est tout le dynamisme que tu vas mettre là-dedans. Mais pas juste ton dynamisme, le dynamisme que tu mets au projet. Peut-être tu valorises des profs, comme tu disais tantôt, les gens qui t'accompagnent. Fait que ces choses-là, je trouve que ça donne une bonne humeur, ça donne envie aussi d'écouter, d'orienter. Ouais.
OK. Ton côté, Marjolaine?
Bien, ça ressemble beaucoup à ce qu'Alexandre a dit. On est des conseillers, on conseille, on écoute, on suggère. Il ne faut pas s'offusquer s'ils décident de ne pas utiliser nos propositions,
non,
nos idées.
Mm-hmm.
Donc, on conseille, on accompagne ceux qui ont le goût d'être accompagnés. On demande, on fait preuve d'ouverture. On laisse notre porte ouverte. Si cette idée-là ne passe pas, ça ne fonctionnera pas la première fois. Bien, allez essayer autre chose. Revenez-moi. Puis, je pense qu'il faut laisser beaucoup de liberté dans l'accompagnement qu'on fait.
Ouais.
Donc, l'écoute, c'est clairement une compétence que le CP doit développer.
Clairement.
On s'entend.
Oui,
puis, il faut bien écouter pour connaître le vrai besoin. On revient à l'essentiel.
Exact.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai une certaine pression des fois à amener les équipes vers les objectifs. Est-ce que vous vivez ça de votre côté aussi, Alexandre?
Ben, oui, moi, c'est certain qu'il y a toujours une certaine pression qui est présente. Avec le temps, à un moment, on apprend peut-être à la gérer ou à connaître mieux le réseau. On commence à tempérer un peu, mais il y a toujours une pression. T'sais, l'ambiance, quand tu arrives dans un département de profs, l'ambiance n'est pas bonne entre les profs. C'est pas facile de rester toujours positif quand en face, les gens sont pas toujours là, puis ils sont pas toujours dans le même état d'esprit. Fait que si tu ajoutes à ça tous les délais à respecter pour des dépôts, des livrables administratifs ou autres, à un moment, ça peut devenir déroutant, inquiétant. T'sais, comme professionnel, il faut chercher. Fait que c'est sûr que moi, ce que je rappelle tout le temps à mes collègues et même aux gestionnaires, c'est qu'on n'est pas neurochirurgien. Hein? Il n'y a pas
aucune de
humaine derrière. Hein? Si ça se remet à demain ou la semaine prochaine, on est encore capable de faire de quoi. Il faut prendre un peu de recul, voir où sont ses priorités. Le fait d'être tout le temps en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sous pression, ça ne marche pas. Il y a un moment, ça ne marche pas. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est personnellement, ça vient peut-être avec le temps, mais savoir se respecter. Où sont tes limites? Savoir dire non. Puis je pense que c'est l'équilibre mental qui gagne derrière, finalement.
Okay. Ouais. Ben exactement. Puis de notre côté, on est une petite équipe. Notre bureau nous fait entièrement confiance sur l'expertise qu'on a, ce qu'on peut apporter.
C'est ça.
Puis nos livrables, on a de la difficulté à les respecter parce qu'on est toujours sollicité par les profs. Ça, on ne peut pas prévoir combien de rencontres, combien de demandes on va avoir. Fait qu'on nous fait extrêmement confiance. On exerce notre rôle conseil, c'est notre priorité. Fait que pour ça, je n'ai pas tant un leadership, la pression. Moi, j'accompagne les profs qui veulent être accompagnés. Puis mes livrables, bien, je fais du mieux que je peux pour les livrer quand j'ai le temps de les livrer. Puis là, malheureusement, les profs, on est victime de notre popularité. Fait qu'on
bon.
Livre moins, c'est ça, mais on aide beaucoup de profs.
Ben, je pense qu'il faut pratiquer le lâcher-prise aussi. Des fois, on n'est pas imputable, responsable de tous les résultats.
Ben
s'il y a des choses qui ne vont pas dans la direction qu'on veut, nous, comme tu dis, on conseille. Mais bon, ça ne donne pas toujours les résultats qu'on aurait espérés.
Oublie qu'on est une équipe aussi.
Oui, on n'est pas responsable de tout.
Exactement.
Ben
oui.
Ouais. OK. Bien, encore une fois, très intéressant.
Oui,
très
c'est
contente
vrai.
De la discussion.
Aussi.
Donc, merci beaucoup, Marjolaine, Alexandre.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée.
Bye-bye.
Mon prochain invité, vous allez le constater, a fait preuve de leadership pédago-numérique à plusieurs reprises. André Laflamme est conseiller pédagogique depuis 1999. Il a œuvré une vingtaine d'années au Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal et aujourd'hui, il est consultant en conseillance pédagogique. Dans sa carrière, André a travaillé à la mise en place de plusieurs innovations. Une qui ressort particulièrement du lot, c'est celle d'avoir collaboré avec des développeurs de Moodle et de son établissement pour que les profs puissent avoir accès à de nouvelles fonctionnalités sur la plateforme. Bonjour André.
Bonjour Géraldine.
Très contente de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Racontez-nous comment vous avez réussi à mobiliser et votre institution et le grand patron de Moodle.
Bien, écoutez, c'est un grand projet qu'on a eu à l'Université de Montréal. J'ai eu le privilège d'être porteur de dossier dans le développement d'outils de suivi pour l'approche par compétences dans les programmes d'études. L'idée de départ a commencé avec la faculté de médecine vétérinaire, mais on a su intéresser assez rapidement la faculté des sciences infirmières et la faculté des sciences de l'éducation pour d'abord imaginer un flux de travail pour évaluer ces compétences-là. Ces gens-là nous ont bien sûr aidés dans la validation des interfaces, comment on va rentrer les données, dans la validation des rapports aussi, comment on va analyser ces données-là pour la prise de décision. Et ils nous ont aidés aussi pour les tests fonctionnels, donc dans les mises à l'essai, donc les trois facultés. Il a fallu bien sûr avoir une alliance avec les TI de l'université. Et ça, historiquement, quand on a mis en place Moda à l'Université de Montréal, il y a des gens de la direction qui ont eu la brillante idée d'installer les bureaux des développeurs à même les bureaux des conseillers pédagogiques. Donc, c'était des gens qu'on
rencontrait. Quand même.
Oui, c'est des gens qu'on rencontrait partout, à la machine à café, à la cafétéria, tout ça. Alors, ça a été une autre alliance qui s'est créée de façon inductive. Ces gens-là étaient là, ils nous parlaient de leurs préoccupations et nous, on leur parlait des nôtres et on a réussi à faire évoluer des gens qui se destinaient principalement au tout début à la maintenance, mais vers un centre de développement pour créer des nouvelles applications à l'intérieur de Moodle. Bien sûr, il a fallu faire des présentations et convaincre la direction qu'on avait besoin d'argent. Ça,
c'est toujours
important. ces gens-là nous ont aidés, bien sûr, en découpant le projet avec des livrables. Et dans les premiers temps, on a pu démontrer qu'on était capable de livrer en temps et au prix estimé. Donc, on a gagné l'alliance de la direction. Et au même moment, en 2015, il y avait aussi le Moodle Moot, qui s'est tenu à l'Université de Montréal et on en a profité pour discuter avec Martin Duguemas, qui est le fondateur de Moodle, des idées qu'on avait à propos de comment on voulait évaluer les compétences et comment on imaginait ça à l'intérieur de Moodle.
Belle opportunité, là.
oui, c'est une belle opportunité. Déjà de leur côté, ils réfléchissaient à des aspects qui étaient semblables. On a pu mettre en relation les deux équipes de développement et on a pu intégrer à l'intérieur du corps même de Moodle, donc ce qu'on appelle le core, le code qui a été développé en partie par l'Université de Montréal. Et ça, l'avantage que ça a directement, c'est qu'il y a une pérennité qui s'installe, puisque le code fait partie maintenant intégrante de Moodle. Il est maintenu par l'équipe de développement Moodle. Okay. Mais ça oblige à des discussions et à certaines tractations. L'horaire était serré chez Moodle pour développer la version 3. Et donc, on a pu contribuer. Mais on le mentionnait, il y a eu des discussions et il y a des choses qu'on a pu obtenir et d'autres qui sont mortes au feuilleton ou enfin qui ont été optimisées pour plaire aux deux parties. Nous, ce qu'on a fait, on a aussi développé des plugiciels, donc des compléments pour toute la dimension des rapports pour qu'on puisse continuer à les adapter sans avoir à retourner au core, au cœur de Moodle. Donc, ça a été un développement qui a duré quand même plusieurs années et on en est très fiers et on continue à travailler avec les facultés, les départements pour, encore une fois, maintenant que les données sont saisies dans le système, pour avoir différents rapports et différentes façons d'analyser les données.
Okay, c'est vraiment un super exemple de leadership, là. C'est quand même impressionnant.
On est très fiers. C'est une belle idée, oui.
Donc, des exemples de leadership pédago-numérique, je pense que vous en comptez plusieurs à votre actif. C'est quoi vos trucs pour arriver à réaliser les innovations là, que vous avez en tête? Avez-vous des petits trucs à nous donner?
Ben, oui, j'en ai quelques-uns. J'ai une situation aussi qui est peut-être particulière. C'est un privilège que j'ai, c'est de donner deux charges de cours à l'Université de Montréal, qui fait en sorte que je suis en contact direct avec des étudiants. Et en tant que chargé de cours, on est en contrôle du plan pédagogique du cours au complet. Alors, ça donne des avantages pour avoir un terrain pour faire certaines expérimentations qui sont tout à fait aussi en accord avec le responsable de programme. Il faut avoir une alliance aussi, surtout si vous voulez explorer différentes dimensions, comme par exemple l'introduction de l'indice de certitude dans les évaluations. Il faut en discuter avec son responsable de programme. Donc, il faut aussi des alliances de ce côté-là, même si on est en contrôle. Ça permet d'élaborer un retour d'expérience avec des traces qui montrent l'intention pédagogique, l'effet produit chez les étudiants par des traces qui sont soit qualitatives ou quantitatives, et des appréciations qui permettent de voir quel impact ça peut avoir sur les apprentissages et peut-être même aussi sur le confort d'apprendre. Il n'y a pas juste la quantité de matière qu'on transmet, il y a aussi le plaisir d'apprendre. Donc, il y a certaines innovations qui vont simplement augmenter le confort. Il faut faire attention dans ces situations-là à l'effet cohorte. il y a des innovations qui peuvent prendre du temps à prendre racine. C'est pas à la première itération que ça va fonctionner. Ouais. Et ça peut faire en sorte que vous pourriez aussi arriver à une situation où il y a une innovation qui fonctionne bien, mais au trimestre d'ensuite, la balle ne rebondit pas très exactement de la même façon.
Bien, le contexte, c'est vraiment variable d'un contexte à l'autre.
Bien, il y a une influence, on dirait qu'il y a une influence de la cohorte parfois.
De la cohorte, OK,
oui. Oui, ce que j'appelle l'effet cohorte, que d'autres aussi appellent l'effet cohorte. Donc, mon conseil, c'est si jamais vous faites une innovation et vous n'avez pas le résultat attendu,
persister,
j'allais dire, c'est ça, ben, exactement.
Bon point. Mon autre question, c'est pour les CPI qui, comme moi, débutent quand même dans le métier, comment on fait pour développer notre leadership?
Bon, différentes stratégies, de différents niveaux de leadership. Si on parle, par exemple, du leadership au niveau des enseignants, l'important, c'est de créer des alliances avec ces gens-là. Il y a souvent un premier contact qui est soit des participations à vos formations, par exemple, ou encore des demandes de soutien qui, on le sait, parfois sont plus techniques que pédagogiques au début. Alors, le conseil que moi, je donne aux gens, bien sûr, il faut bien comprendre la question qui est posée par l'enseignant, bien y répondre et surtout, je vous dirais, proposer un enrichissement du cours. Vous êtes à même de saisir où en est la personne de par les questions posées. Et là, si vous proposez un enrichissement dans son cours, personnellement, je n'ai jamais eu une situation où, quand je disais « accepteriez-vous une suggestion pour améliorer votre cours? » Je n'ai jamais eu une situation où les gens m'ont dit « non, non, merci, j'en ai assez. » Les gens sont toujours curieux de savoir ce que vous pouvez leur amener. Et bien sûr, ils ont le plaisir de constater que vous vous intéressez à eux et à leur projet pédagogique. Et ça, c'est une piste intéressante.
Donc, quand la porte s'ouvre, on y va, puis on en profite pour proposer peut-être d'autres choses, même si ce n'était pas le sujet initial.
Mais même, ou entre-ouvrir la porte peut-être même par des suggestions. Et quand on a l'espace pour le faire, c'est de faire un retour sur l'expérience.
Des excellents conseils, très riches, que je garde précieusement. Donc, André Laflamme, merci beaucoup.
Merci.
Pour être capable d'innover, ça prend du leadership. Il y a des innovations de plus grande ampleur, comme nous l'a partagé André, mais il y a des innovations à plus petite échelle qui sont tout aussi pertinentes. On comprend que certains contextes sont plus favorables pour développer ou réaliser des projets, mais il faut aussi savoir saisir les opportunités lors de nos rencontres et oser proposer des idées ou des solutions nouvelles. Bref, le leadership, ça se développe petit à petit et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à construire notre crédibilité et à rallier les gens. Dans le prochain épisode, les enjeux de l'évaluation à l'heure de l'inclusion et de l'intelligence artificielle.
Si ça peut aider à évaluer vraiment plus le savoir que les connaissances des étudiants, ça va pousser tout ce qu'on prône comme CP d'aller chercher plus loin que du par cœur, d'aller valider la logique, d'aller valider l'application des choses.
Merci d'écouter ce balado et à bientôt.
Pour accéder au contenu et à la communauté d'immersion CP, consultez la plateforme au www.i-immersioncp.ca. Au plaisir de vous y retrouver. La série Les Beaux Rôles est une production de Mémodia.